mercredis accused classic du divin dans l'acte, un symbole du culte exprimant une vision, une recherche du divin.
Quoi?
Avant ça, il y a... On pourrait dire également qu'un acte complet d'amour divin et d'adoration a en lui trois parties qui sont les expressions d'un tout unique. Je n'ai pas compris les premiers deux.
Hein?
Je n'ai pas compris les premiers deux parties.
On met en deux parties. Je comprends qu'il veut dire comme ceci, que il y a une forme purement physique de l'acte qui une forme comme celle des cultes où on fait un geste spécial, un mouvement spécial qui est destiné à exprimer la consécration. Ça, c'est purement matériel, comme par exemple d'allumer de l'encens, d'arranger des offrandes, de prendre soin d'un temple et de décorer une idole, n'est-ce pas, tout ce genre d'actes-là, purement physique. La seconde partie, c'est une sorte de consécration mentale qui fait de l'acte que l'on accomplit un symbole qui ne se contente pas simplement d'allumer de l'encens, mais qui, en allumant de l'encens, fait de ce geste un symbole, par exemple, de l'aspiration qui brûle dans le corps, ou du don de soi dans une dissolution, dans la purification du feu, etc. C'est-à-dire l'acte d'abord, le symbole que dans cet acte il doit y avoir la compréhension symbolique de ce que l'on fait. Et puis, finalement, derrière ces deux choses, une aspiration d'union, de que tout ça, que ces actes et le symbole que l'on y met, soient seulement des moyens de vous rapprocher de plus en plus du divin et de vous rendre capable de vous unir à lui. Hein, ce sont les trois choses qui doivent être là pour que l'acte soit complet. C'est-à-dire une chose purement matérielle, une chose mentale et une chose psychique. L'aspiration psychique. S'il y a un des trois sans les trois, c'est incomplet. il est généralement très rare que les trois soient consciemment unis. Ça fait des êtres exceptionnels de sincérité et de consécration. L'être tout entier, dans toutes ses parties, participe à l'action. Voilà. Eh bien, il fut un temps où nous avions de la difficulté à trouver des questions. Maintenant, nous sommes allés à l'autre extrême. J'en apporte tellement que ça nous garderait au moins jusqu'à minuit s'il fallait que je réponde à toutes. Alors je vais être obligé de faire une sélection. Pour le moment, je ne dis pas que je ne répondrai pas aux autres, mais une autre fois. Pas tout à la fin. Il y en a une qui est à la fois d'un ordre très général et très pratique et qui me paraît assez appropriée. Je me suis aperçu que enfin, beaucoup trop souvent, je dois dire, que la plupart d'entre vous n'écoutent pas ce que je dis, au point qu'il est arrivé maintes fois que je répondais en détail à une question et que immédiatement après, une autre d'entre vous me posait exactement la même question, comme si je n'avais rien dit. Et le phénomène est comme ça, que chacun est enfermé dans sa propre pensée. Comme d'ailleurs, je suppose que vous avez l'habitude de le faire à l'école, que vous répétez votre leçon à vous-même si vous êtes attentif et assidu, et que vous n'écoutez pas ce que le professeur demande et ce que les autres élèves répondent. Et ainsi, vous perdez le trois quarts de l'avantage de ne pas être seul en classe. Ici, c'est plus sérieux, parce que je ne donne jamais une réponse personnelle, individuelle, que je réponds pour que tous en profitent. Et que si, au lieu d'écouter, vous continuez à penser à ce que vous avez dans la tête, il est de toute évidence que vous perdez l'occasion d'apprendre quelque chose. Ça, c'est le premier point. Si vous êtes ici, eh bien, d'abord, écoutez. Pensez pas à autre chose. Mais ça, ça ne suffit même pas. C'est seulement le commencement. Il y a une bonne manière d'écouter et beaucoup de mauvaises manières d'écouter. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous sont assez amoureux de la musique pour savoir l'entendre. Mais si vous voulez écouter la musique, il faut que vous fassiez un silence absolu dans votre tête, que vous ne suiviez et n'acceptiez aucune pensée et que vous soyez entièrement concentré dans une sorte d'écran qui reçoit sans mouvement et sans bruit la vibration de la musique. C'est la seule manière, il n'y en a pas deux, c'est la seule manière d'entendre la musique et de la comprendre. Si le moins du monde vous admettez les mouvements et les fantaisies de votre pensée, eh bien toute la valeur de la musique vous échappe. Eh bien, pour comprendre un enseignement qui n'est pas tout à fait d'ordre matériel ordinaire, qui implique l'ouverture à quelque chose de plus intérieur, cette nécessité de silence est encore beaucoup plus grande. Si au lieu d'écouter ce que l'on vous dit, vous commencez à sauter sur l'idée pour poser une autre question, ou même à commencer à discuter ce qui vous est dit sous le prétexte fallacieux de comprendre mieux, tout ce qui vous est dit passe comme de la fumée sans laisser aucun effet. De même que lorsque vous avez une expérience, il ne faut jamais, pendant le temps de l'expérience, essayer de comprendre ce qu'elle est, parce que vous la faites s'évanouir immédiatement, ou que vous la déformez, et que vous lui enlevez sa pureté. De même, si vous voulez qu'un enseignement spirituel entre au-dedans de vous, il faut que vous soyez tout à fait immobile dans votre cerveau. Immobile comme un miroir, non seulement qui reflète, mais qui absorbe, qui laisse le rayon entrer et aller profondément au-dedans afin que des profondeurs de notre conscience, ils ressortent un jour ou l'autre sous forme d'une connaissance. Si vous ne faites pas ça, vous perdez votre temps et battez le marché, vous perdez le mien. Voilà un point qui est bien établi. Je pensais vous l'avoir déjà dit plusieurs fois, mais enfin, peut-être que je ne vous l'avais pas dit assez clairement. Si vous venez ici, venez avec l'intention d'écouter dans le silence. Ce qui arrivera, vous le saurez plus tard. L'effet de cette attitude silencieuse, vous le reconnaîtrez plus tard. Mais pour le moment, la seule chose à faire, c'est d'être comme ça. Silencieux, immobile, attentif, concentré. C'est tout. Voilà. Le premier point, ou la seconde question est d'ordre tout à fait extérieur relativement, mais elle paraît assez indispensable. Parce que elle concerne notre éducation sportive et aussi, d'une façon générale, la base psychologique sur laquelle nous avons établi notre action ici. Ces choses ont été écrites par Cherubino. Je les ai écrites très souvent. Je vous les ai expliquées maintes fois, mais avec assez de regrets. Je suis obligé de constater que ce n'est pas entré dans votre conscience. Je ne veux pas partir en guerre contre ce que vous sentez et ce que vous faites. Mais je voudrais au moins que vous compreniez pourquoi les choses sont faites ici comme elles sont faites? Et qu'au lieu de vous laisser aller dans une spontanéité rétrograde vers tout ce qui se fait ailleurs, sous prétexte que c'est comme ça que les choses se font, sous prétexte que vos parents et arrière-grands-parents, que les parents et les amis et les grands-parents de vos amis, que tous ceux qui sont restés au dehors continuent à faire les choses comme ça et qu'ils considèrent que c'est la façon normale, naturelle de les faire. Je ne conteste pas ce fait dans le sens que l'humanité a été créée par la nature pour un but spécial et avec des fins spéciales, et que, en vue de la réalisation de ces fins, elle a fabriqué des êtres et qu'elle leur a donné des habitudes spéciales aussi et des fonctions spéciales. Par conséquent, si vous parlez de choses naturelles, je ne peux pas vous dire que ce n'est pas naturel parce que c'est la manière de la nature. Mais enfin, je crois vous avoir dit, pas seulement une fois, bien des fois, et M. Aubindo aussi a écrit, pas une fois, mais bien des fois, que nous n'étions pas ici pour recommencer, perpétuer, continuer ce qui se fait ailleurs. Et nous avons concrétisé ce fait spécialement dans notre éducation. Parce que, je dois dire sans offenser personne, que ceux qui viennent après avoir déjà beaucoup vécu, qui ont un passé assez lourd derrière eux, peuvent trouver difficile de changer immédiatement leur attitude et leur point de vue. Mais que si vous prenez des tout petits enfants qui n'ont pas encore été trop gâtés, ils sont toujours gâtés, mais qui n'ont pas encore été trop gâtés par l'éducation ordinaire, les idées de la famille, l'atavisme des parents, etc., etc. Vous avez une chance d'orienter la conscience sur la vraie route et d'obtenir un résultat qui soit tangible et concret. À dire vrai, nous n'avons pas à nous plaindre. Parce que nous avons eu des preuves éclatantes que si on sait faire, eh bien, ce que nous prétendons est possible. Ce que nous prétendons, c'est que dans des conditions analogues, avec une éducation identique et des possibilités identiques, il n'y a pas de raison de faire une distinction catégorique, finale et impérative entre ce qu'on appelle les hommes et les femmes. Pour nous, les êtres humains sont l'expression d'une âme unique. Et si, comme je le disais au début, la nature a différencié ses expressions pour la satisfaction de ses besoins et la réalisation de ses mobiles, si nos besoins et nos mobiles sont d'une autre nature et que nous ne reconnaissions pas que les fins de physique telles qu'elles sont conçues par la nature sont des fins finales et absolues, alors nous pouvons essayer de développer des consciences sur une autre ligne. Malheureusement, nous nous sommes aperçus d'une chose. À mesure que les années passent, et que les petites filles deviennent des grandes filles. Voilà, que tout d'un coup, elles commencent à se souvenir qu'elles sont des filles, qu'elles doivent être jolies, qu'elles doivent plaire, qu'elles doivent s'habiller d'une façon spéciale, faire des petites manières pour se faire remarquer, et que tout le résultat de notre travail tombe par terre. Il y en a, il y a toujours des exceptions à la règle, il y en a qui ont compris et qui essayent de réaliser. Mais même parmi celles-là, il reste à l'arrière-plan cette espèce de petite insatisfaction de ne pas être tout à fait comme les autres, de pouvoir faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Et pour que cela apparaisse clairement, eh bien, il faut comparer avec les autres. Alors voilà exactement quelle a été l'occasion de ce que je viens de vous dire. C'est une question d'une d'entre vous qui a fait naître une autre question, avec l'espoir que si je vous explique une fois de plus, en détail, en insistant sur le fait, nous pourrons peut-être repartir à nouveau et réaliser quelque chose de plus complet et de plus clair. Nous descendons tout à fait sur les choses terrestres. Quelqu'un a réussi très bien dans les athlétiques et a fait quelque chose qu'elle a été la première à faire. Ce quelqu'un, c'est une aile pour la facilité du langage. Et alors, en plus de la satisfaction d'avoir bien fait, il y a eu une petite satisfaction d'avoir mieux fait que les autres. Et elle est venue demander pourquoi on n'annonce pas les records féminins. Nous croyons avoir répété et redit qu'il n'y a pas de record féminin et de record masculin, qu'il y a des records de groupe. Il y a le groupe vert, les différents groupes verts, il y a le groupe rouge, il y a le groupe gris, il y a le groupe bleu, il y a le groupe beige, le kaki, il y a le groupe blanc. Vous pouvez me dire qu'il y a ces groupes qui sont exclusivement masculins et des groupes exclusivement féminins. Je vous répondrai ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que, à moins qu'on ne vienne ici tout petit, c'est difficile de changer des habitudes et que c'est ça qui a rendu nécessaire de le faire, mais ce n'est pas par idéal. Et que si nous prenions l'habitude d'annoncer glorieusement « Cette fille si remarquable a fait ce qu'aucune autre fille n'a pu faire avant elle. » Oh là là, d'où tombons-nous? Sans compter que c'est un encouragement à la vanité, ce qui n'est pas bon. Mais c'est aussi une affirmation que c'est un fait remarquable parce que c'est une fille. Et ce n'est pas du tout un fait remarquable que c'est une fille, c'est un fait remarquable parce qu'elle a très bien fait. Et qu'il y a beaucoup de garçons qui n'ont pas fait si bien. Mais si on veut, pour amplifier ce bien, le comparer aux autres filles qui n'en ont pas fait autant, ça devient lamentable. Alors, on m'a apporté la question. Je crois qu'on a répondu à la personne en question, qu'on lui a dit ce que je viens de vous dire, qu'il n'y a que des records de groupe et pas des records de sexe. Mais alors, on m'a dit, avoir entendu, pas une fois, mais des centaines de fois, surtout de gens qui viennent du dehors, avec toutes les idées du dehors, et qui posent cette question-ci. Pourquoi avez-vous le même programme d'éducation physique pour les garçons et pour les filles? Il y en a qui considèrent que c'est un scandale. Il y en a qui considèrent que c'est une erreur grossière au point de vue physique, matériel. Pourquoi les filles ne sont-elles pas traitées d'une façon spéciale et tout à fait différente des garçons? Alors, le gros argument, comme cela se fait partout. Ah, merci bien. Alors, pourquoi est-ce que nous avons un ashram? Pourquoi est-ce que nous avons une université? Puisque partout on fait des choses, nous n'avons pas besoin de les répéter, nous ne les ferons pas mieux que les autres. Et quand on me met cet argument dans les jambes, on ne peut pas me dire une chose qui me paraisse plus profondément imbécile. Cela se fait partout. C'est justement la raison pour ne pas le faire. Parce que si nous faisons comme les autres, ce n'est pas la peine de faire rien du tout. Nous voulons justement introduire dans le monde quelque chose qui n'y est pas. Mais si nous gardons toutes les habitudes du monde, toutes les préférences du monde, toutes les constructions du monde, je ne vois pas comment nous pouvons sortir de l'ornière et faire quelque chose de nouveau. Mes enfants, je vous ai dit, répété, sur tous les tons, de toutes les manières, si vous voulez vraiment profiter de votre séjour ici, tâchez de regarder les choses et de les comprendre avec un œil nouveau et une compréhension nouvelle, basée sur quelque chose de plus haut, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus vrai, quelque chose qui n'est pas encore, mais qui sera un jour. Et c'est parce que nous voulons construire cet avenir que nous avons pris une attitude spéciale. Je vous dis que nous avons eu des preuves tout à fait matériel de l'exactitude et de la vérité de notre position. Mais elles ne sont pas durables. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement facile de retomber dans la conscience ordinaire et qu'il n'y a rien de plus difficile que de se tenir tout le temps sur le haut de l'échelle et d'essayer de regarder le monde de là-haut. Nous ne voulons pas obéir aux ordres de la nature, même si ces ordres en dernière eux des milliards d'années d'habitude. Et une chose est certaine, c'est que l'argument que fournit la nature quand elle s'oppose à ce que les choses changent, c'est « ça a toujours été ainsi ». Moi, je prétends que c'est pas vrai. Qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, les choses changent. Et qu'un jour viendra, on se redira, « Ah oui, il y avait un temps où c'était comme ça, mais maintenant c'est autrement. » Eh bien, admettez seulement pendant quelque temps, d'une façon qui appartienne encore à la foi et à la confiance, que justement on est en train de faire ce changement. Qu'on est arrivé au moment où les choses vont se retourner et prendre une nouvelle orientation. On vous demande simplement d'avoir un tout petit peu de foi et de confiance et de vous laisser guider. Autrement, ben, vous perdrez l'avantage d'être ici, c'est tout. Et vous repartirez avec toutes les mêmes faiblesses et toutes les mêmes habitudes que on voit dans la vie telle qu'elle est en dehors de chez nous. Voilà. C'est pour ça que vous avez toujours cru que j'étais un peu sévère, un peu rigoureuse, et qu'enfin, c'était pas commode de me satisfaire. C'est pour ça qu'on jouait du joli petit ruban rose dans les cheveux ou des queues qui pendent dans le dos. Je dis, sans charité peut-être, vous êtes ridicule. Parce que vous croyez que vous êtes très agréable à voir, mais vraiment, ça vous rend ridicule. Si vous voulez aller dans le monde et puis vous arranger comme les filles s'arrangent dans le monde et puis faire des petites manières pour plaire parce que c'est votre seule défense et votre seule arme d'action et attirer l'attention et plaire. Être bien joli, bien attractif, ça c'est libre à vous, ça ne me regarde plus. Mais vraiment faire ça ici, c'est ridicule. C'est ridicule que vous vous faites descendre immédiatement à un niveau qui n'est pas juste. Voilà. Naturellement, vous pouvez me reprocher de vous dire ça devant l'autre sexe. Mais je l'inclus dans le ridicule. Parce que s'il ne pensait pas comme il pense, s'il ne sentait pas comme il sent et s'il n'agissait pas comme il agit, il y a longtemps que vous seriez dégoûté de ces petites manières si enfantines. Voilà. Maintenant, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui, non? Vous avez votre compte complet. La prochaine fois, nous prendrons les autres.